Nous sommes dimanche 21 avril et vous écoutez le 43e épisode phase B de Proxy Jeux.
Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous présente les jeux de société sur table et sur écran.
Proxy Jeux, c'est aussi une application mobile sur iPhone et Android.
Et merci à Ludic Bazar de nous aider à réaliser ce podcast. Ludicbazar.com, achetez un jeu, essayez-le et renvoyez-le s'il ne vous plaît pas.
Salut les joueurs, salut les joueuses, salut Olivier.
Salut Jérémy.
Ça va ?
Très bien.
T'es prêt ce soir, t'es chaud bouillant, parce que tu te rappelles, tu t'es engagé dans l'épisode précédent, dans le 42A, tu t'étais engagé et maintenant, eh ben... il faut passer à l'acte.
On vous a prévu un 43B, passer à l'acte. On vous a prévu un 43B court mais intense. On était un petit peu fatigué sur la fin du 43A. Vous avez peut-être remarqué. On a pris une petite bière, une triple carmélite, et on verra ce que ça donne si on est encore plus fatigué que tout à l'heure. Donc au programme Ascension. Sous toutes ses formes, avec toutes ses extensions. Et puis Jérémy va nous parler de Manhattan Project, auquel j'ai joué, mais je pourrais pas en dire deux mots. Et puis, ces années-là ?
On peut présenter rapidement ces années-là, si ça vous tente.
Allons-y. Tu commences ?
Alors, je commence avec... on commence par quoi ? Par Manhattan Project.
Ces
années-là.
On va faire crescendo, je pense.
Ouais, c'est pour ça, je me dis, ces années-là, en plus, je vais vous le présenter rapidement.
Donc, du plus accessible au plus compliqué. Pas le moins intéressant, mais parce que.
Non. Alors, ces années-là.
L'ascension est quand même mieux que Manhattan Project, mais.
Ces années-là.
C'est pas lancer un pavillon à marre dès maintenant.
Non, je ne suis pas comme ça. On parlera pas de. Donc ces années-là, c'est un jeu de Richard Borg, auteur de jeux un peu plus costauds comme Mémoire 44. Parce que ces années-là, c'est un jeu plutôt ambiance.
Command & Colors. Enfin, c'est le système Command & Colors.
Voilà, mais il a aussi fait donc des jeux comme ces années-là, qui sont un jeu plutôt d'ambiance, qui peut se jouer à partir de 2 joueurs. Bon, je ne recommande pas, je recommande plutôt 4 joueurs, jusqu'à 16 joueurs, ou même autant que vous voulez. En fait, il y aura 4 équipes maximum qui vont s'affronter. Ouais,
comment tu fais 4 équipes avec 2 joueurs?
Bah c'est le problème, c'est pour ça que je conseille d'être plutôt. Et si vous êtes 4 joueurs, je conseille de faire 2 équipes. En fait, c'est un jeu, il faut quand même jouer en équipe. Bon, c'est un jeu d'ambiance.
ça m'a l'air compliqué, ton.
ton jeu d'ambiance. J'ai merdé, j'ai mal commencé mon explication. C'est classé. Comment on va dire? Ça pourrait être classé dans une catégorie jeu de connaissance, mais on va voir pourquoi. Pour moi, ça peut être un. C'est pas que de la connaissance. Et c'est ce qui fait que c'est un jeu intéressant. Parce que sinon, vous faites une très belle poursuite et vous allez plomber la soirée.
Il y a des gens qui passent de très bonnes soirées avec le trial pour écraser les autres de leur connaissance.
Ouais, justement, bah, ces années-là, c'est un peu différent. Le concept de ces années-là, c'est un look quand même très 70s, hein, la boîte. Moi, au début, je pensais que c'était un jeu sur Claude François, quoi, tu vois. C'est fait exprès,
ça me fait penser à une boîte Asmodée, mais.
Ouais, mais tu vois, la typo, le machin. Enfin bref, pendant longtemps, c'est un jeu qui ne m'intéresse pas forcément. Et il a été, en fait, je crois, parmi les nominés, les sélectionnés de l'Asdor l'année dernière. Et c'est Martin Wittberg qui en avait parlé en disant qu'effectivement c'était un jeu qui méritait qu'on s'y intéresse. Donc j'ai dit ok, je vais creuser un petit peu. Parce que bon, Time's Up, moi c'est bien, mais j'ai envie de.
D'autre chose ?
Ouais, j'en ai un peu. Voilà.
Alors, juste petite. Peut-être que vous l'avez déjà entendu, ce petit trick pour Time's Up. Si vous êtes lassé de votre extension, de votre édition. Ce que vous faites, c'est que vous faites.
Olivier vous la reprend.
Inscrire. Non, bah, tu rigoles. J'en ai pas chez moi. Vous faites inscrire à chaque personne 3 noms sur un papier et vous les mettez dans un saladier. Vous tournez et après, bah, vous commencez à faire faire deviner ces noms-là.
Et vous revendez votre Time's Up parce que vous en avez
mais
plus
oui,
besoin.
Mais oui.
Mais de toute façon, à la base, c'est déjà un jeu. Oui,
c'est un jeu.
Les gens appellent ça le jeu du saladier.
C'est ça. Et en fait, il y a beaucoup le reproche qu'on fait à cette version-là, c'est qu'on va dire ouais, mais on connaît pas les gens, tout ça. Je trouve que c'est vachement plus intéressant de ne pas connaître les gens. Et puis de deviner, et puis de mémoriser ce que les autres en ont dit et tout ça.
Sinon, les gens ils mettent toujours les mêmes noms sur les bouts de papier.
Et après, et puis la diversité en disant Piscine, Lormanodou, Loana, tout ça, c'est ces deux choses qui sont intéressantes. Donc je trouve que c'est très très bien. Donc Time's Up, n'achetez pas Time's Up. Je vais me faire démonter par les.
Non, c'est bien Time's Up, pour plein de gens c'est bien, mais au bout d'un moment, quand on a un peu trop joué. On a envie d'autre chose. Donc, ces années-là, le concept c'est tout simple. On va vous donner un événement. C'est là où je regrette de ne pas avoir pris ma boîte. Ah bah j'en ai trouvé là.
L'homme sur la lune.
Par exemple, c'est à Wimbledon, l'Américain André Agassi remporte son premier tournoi du Grand Chelem.
Qu'est-ce que j'en sais ?
Et donc tu dois, et bah voilà. on te pose la question, Olivier, il va falloir répondre.
Non, mais pour moi, c'est exactement comme un entretien de poursuite.
Eh bien, tu dois. Alors, oui.
Parce que moi, je connais pas du
tout. Donc, tu dois trouver l'année où s'est passé l'événement. D'accord ? Ça, entre 1970 et 2010.
Ok.
On est gentil, on s'arrête à 2010. Les événements trop près, tu vois, ça serait trop facile. Il faut trouver l'année, mais effectivement, tu sais plus à peu près. Donc, tu vas essayer de raisonner, en fait. Tu dis, attends, André Agassi.
J'avais quel âge à l'époque ?
T'avais moins 3 ans, ouais, donc tu peux pas. Mais normalement, tu fais, bon, attends, c'est mes années lycée, c'est mes années machin. Donc, tu vois, tu arrives à petit point, tu veux dire, bon, allez, ok, ça va être. Tu veux dire, c'est quoi ? C'est
92.
Tu veux dire 92, par exemple. Mais tu penses que tu as peut-être un petit delta. Tu dis, ouais, c'est début des années 90, t'es pas sûr que ce soit 92.
Ouais.
Donc, tu as des petits jetons. En fait, t'as des roues pour chaque dizaine d'années, les années 70, 80, 90, ouh, 2000. Et t'as un petit jeton et tu dis, allez, ok, c'est peut-être 92, mais à deux années près, je suis pas sûr. Donc,
tu mets deux jetons amplitude.
Non, tu mets un jeton qui est numéro 2. En fait, t'as des jetons, d'accord, t'as un jeton 0, après, t'as les jetons 1, 2 et 3.
D'accord.
Donc, t'as une petite marge. Donc, tu te mets le jeton 2, comme ça veut dire que tu couvres 1992 et deux ans avant et deux ans après. Chaque équipe fait ça. Et on révèle en même temps ce que chacun a mis, et ensuite on donne la réponse. En l'occurrence, Olivier, donc tu dirais 1992 et tu mettrais un jeton
1.
Un jeton 1. Et c'est effectivement 1992.
Oh là là, je sais pas ce qui m'a mis sur la piste.
Ah,
mais...
je sais pas. Peut-être tu as la solution devant.
Non, non, c'est toi qui m'as dit.
Ah, je l'ai dit aussi déjà.
Ouais, tu as dit moins 2 ans avant ton.
Voilà. Voilà. Ah bah oui, j'avais mis. Voilà. Et donc tu. Et tu.
Des habitués comprendront.
Donc, comme tu as réussi à mettre. À trouver la bonne réponse, ton jeton 1, par contre, tu le perds, tu le mets au centre de la table. Tu ne l'as plus.
Oui.
Et on part avec une nouvelle question.
Et ça veut dire qu'il y a 4 questions, au bout de 4 questions, tu récupères tes jetons ?
Non. Quand tu as jeté tous tes jetons, tu as gagné. En attention. Quand
tu jettes tes jetons, si tu trouves la bonne réponse.
Si tu t'es trompé, si tu as mis 1995 avec un jeton 2, t'avais pas couvert et c'était pas bon, donc tu récupères ton jeton.
Loser.
Voilà. Et en sachant que dans les jetons, il y a 6 jetons, donc ça va assez vite, il y a quand même un jeton 0. Donc il ne faut pas te tromper.
0, 1, 2, 3, 4, 5
c'est, non, non, c'est 0, 0 1, 1,
2, 2,
2, 2 et 3, 3 ou quelque chose comme ça. Les 3 sont faciles à placer, encore que. Et quand c'est des trucs qui ont trait au. Enfin, après, ça dépendra de votre âge. Hein. Mais pour moi, tout ce qui a trait aux années 70, c'est tout début des années 70, c'est impossible. En fait, c'est ça que j'aime dans le jeu. C'est-à-dire que c'est. Bon, hein, si on vient sur les années 70, il faudrait pouvoir les enlever, mais tu ne peux pas. C'est pour moi, ça reste de la connaissance pure. Par contre, après, tout ce qui a trait avec les époques où on a grandi, en fait, on va essayer d'y rattacher.
C'est ce que je te dis.
Tu dis, ah ouais, c'était quand j'ai fait ça. Donc, c'est à peu près à telle époque. Et ça se joue en équipe. Parce que du coup, dans l'équipe, les joueurs vont discuter entre eux. Ils vont dire, non, mais je mettrais plutôt ça. Et ça. Évidemment, de temps en temps, on dit, je l'avais dit. Et tout. Et on va essayer de négocier aussi quel pion on met. Si on met le 0, le 1, le 2 ou le 3. Voilà, c'est tout bête, ça marche juste comme ça, il n'y a pas de système de points, de quoi que ce soit. Et du coup, une partie, c'est fait en 20 minutes, une partie est faite. Ça dépend du niveau des joueurs, hein. Tu me diras, ça peut durer 2 heures.
C'est un vrai party game, quoi.
Mais ça reste, oui, ça reste party game. Et justement, pour moi, c'est pour ça que je ne le range pas forcément dans la case des jeux de connaissances, parce que je m'ennuie beaucoup moins qu'au trouver pour suite, quand même. J'avoue quand même que des fois, il y a des trucs, je sais pas, ça te passe au-dessus, il y a des trucs...
Trouver pour suite ou...
Non, non, pas trouver pour suite, mais même ces années-là. Il y a des trucs, j'ai même pas entendu parler.
Je connais pas ce qu'il a.
Tu connais pas? Bah non, forcément, ouais. Tu connais pas. Toi, tu connais les nouvelles stars du tennis actuel qui
c'est
sont.
Ça, Justin Bieber.
Ouais, voilà, c'est bon. C'est bien parti,
je ne peux pas te donner un seul nom de tennisman actuel. C'est incroyable.
Regarde, ouais. Il y avait l'attentat contre Jacques Chirac lors du défilé du 14 juillet.
80. Ah! 2000. Ok. Okay,
tu vois, faut essayer de retrouver.
Ouais.
Je vous donne pas la réponse, hein, des fois que vous tombiez dessus. J'ai pas précisé, mais il y a plus de 2000 questions, hein, donc tu peux y aller. Il y a par exemple, quand est-ce que l'année où est mort Diana ? Facile.
Je suis pas sûr que.
C'est le jour où le destin d'Amélie Poulain a basculé.
Ah bon ? Ah oui ?
Ah oui. Bon,
c'est. C'est compliqué ton jeu. Hein. Moi,
c'est compliqué, oui, je m'aperçois que c'est
un peu élitiste.
Bon. Donc, ces années-là, un jeu de Richard Borg paru chez Cocktail Games en coédition avec BlackRock en 2012. C'est un jeu pour 2 à 16 joueurs. Je vous conseille plutôt à partir de 4 en 2 équipes, voire même plus. Plus on est nombreux, plus c'est drôle.
Ouais, c'est ça, parce que tu cales pas.
À partir de 14 ans, je vous conseille plutôt à partir de 30 ans, parce que c'est mieux de remonter, voire même plus. Parce que voilà.
À partir de 42 ans, en fait. On voilà, toute la période et encore. Voilà, c'est un jeu pour les vieux.
Pour une durée de 30 minutes environ, moi je dirais même presque 20 minutes, ou alors on ne voit pas le temps passer, pour un prix d'environ 30€.
Très bien, très bien, très bien. Et ça se trouve en boutique ?
Ah oui, oui, ça se trouve en boutique. Tu me fais peur. Aurais-je parlé d'un jeu qui ne se trouve plus ? Et ces années-là, on peut le retrouver chez Ludic Bazar pour 25,90€. Il en faut pour tout le monde des jeux, donc c'est pour ça que j'ai dit tiens, on va parler de ces années-là avant d'attaquer des jeux un peu plus costauds.
C'est très bien. Et donc bah, tu parles d'attaquer des jeux un peu plus costauds, donc moi je me suis proposé il y a quelques temps de cela de vous parler d'Ascension, parce que c'est un jeu que j'ai découvert. Non, je suis très content de parler d'Ascension parce que c'est vraiment... C'est, si tu veux, c'est un aboutissement. Pour moi, ce jeu...
De toute une vie de joueur.
Non, pas de toute une vie de joueur, mais de la recherche du deck building parfait. C'est-à-dire qu'à la base, il y avait Dominion. Dominion, qui est le grand ancien du deck building, qui ne me donnait pas satisfaction parce que c'est, à mon sens, trop technique. C'est-à-dire que c'était dur pour moi en ayant... 25 cartes devant soi et puis en mesurant la probabilité de tomber sur telle ou telle carte, de se faire son propre paquet en disant bah, je veux que ça tourne comme ça, qu'il y ait telle interaction entre les cartes et donc je vais choisir, acheter telle et telle carte, c'est compliqué pour moi, c'est vraiment compliqué.
Ouais.
Après il y a eu Thunderstone, et Thunderstone c'était le pendant thématisé de Dominion, c'est-à-dire que tu as toujours tes 25 cartes, mais le but du jeu, c'est pas de faire tourner tes cartes et d'avoir le plus de points possible, ou d'avoir le plus d'or possible pour acheter le plus de points de victoire possible. C'est d'avoir une force suffisante pour descendre dans les souterrains et pour latter des monstres qui sont plus ou moins
Des trucs bien chiants quand même.
Oui, qui sont plus ou moins difficiles à battre, qui sont plus ou moins loin dans les souterrains, donc il te faut de la lumière pour descendre dans les souterrains, etc. etc. Mais tu as toujours la même chose, c'est-à-dire tu te dis je vais prendre telle orientation, je vais acheter telle et telle carte, et puis je veux que ça sorte comme ça. Ascension, pour moi, c'est un mix entre les deux, et j'irai même plus loin, c'est à la croisée de Dominion et Thunderstone, mais en plus avec quelque chose de Race for the Galaxy. Donc la version de base qui s'appelle Ascension Chronicle of the Godslayer, qui a pour auteur Robert Dougherty, John Florillo, Justin Gary et Brian M. Kibier. Ce sont des gens que je ne connais pas.
C'est des joueurs de Magic.
Des quoi ? Des joueurs de Magic ?
Des joueurs de Magic qui faisaient du Pro Magic Pro Tour, enfin ouais, qui étaient un peu élevés, qui ont une idée et qui en fait, tu comprendras donc pourquoi justement le jeu fait mouche.
Édité, alors illustré par Eric Sabé, sorti en 2010. Alors tu m'as dit l'éditeur.
C'est Gary Games.
Gary Games. Pour 2 à 4 joueurs. Alors sur Board Game Geek, ils le disent, et moi je pense que c'est tout à fait vrai, meilleur à 2 joueurs, 13 ans et plus, 30 minutes, et à partir de 10 ans, et chez moi ça se confirme. Donc ça c'était la version de base. Ensuite. L'année d'après, en 2011, on a eu Ascension Return of the Fallen. Et puis, en 2011, également, Storm of Souls, qui a été la première édition qui a été reprise et francisée par Asmodée, sous le nom de Des âmes déchaînées.
Return of the Fallen, donc, qui était la première extension, peut se jouer en standalone ou bien avec la boîte de base Chronicle of Godslayer, alors que Storm of Souls se joue à...
C'est un standalone, donc c'est un jeu qui...
standalone jusqu'à 4 joueurs.
Un jeu qui n'a pas besoin de rien d'autre que de la boîte pour pouvoir être joué. Et il faut quand même signaler qu'en 2012 est sorti Immortal Heroes, des héros immortels, et qu'en fin de compte, les héros immortels se jouent également en standalone. À petite précision près, que des héros immortels se jouent à 2 joueurs uniquement, et que des âmes déchaînées se jouent jusqu'à 4 joueurs, et qu'en ajoutant des héros immortels, tu peux jouer jusqu'à 6.
Ouais.
Et ça, déjà, je trouve ça sympa. C'est-à-dire que dire de toute façon, tu as tout dans la boîte, tu as une boîte à 25€ et puis tu peux jouer, je trouve ça très très bien.
On n'a pas parlé encore du prix, mais effectivement, je trouve même que les prix sont modérés. Ils sont très bien adaptés par rapport au type de jeu que c'est.
À peu près 25€ pour une extension, 35€ pour une boîte de base.
Ah, en français ?
Ouais.
Ouais.
Alors, à savoir quand même que dans le jeu de base, il y a 200 cartes, une soixantaine de tokens. Les tokens, en fait, c'est des sortes de petites pierres, enfin des grosses pierres, des grosses pierres jaunes, n'importe quoi. Voilà, je deviens daltonien avec la bière. Grosses gemmes rouges qui valent 5 points, des petites gemmes blanches qui valent 1 point. C'est des points de victoire, des points d'honneur. Et puis on a 200 cartes, donc le paquet, la main de départ du joueur avec 8 apprentis qui vont vous donner un point de rune. T'appelles ça quoi ?
Je crois que c'est des cristaux.
Oui, ça, ils appellent ça des runes. Ah, et puis les miliciens qui vont vous donner un point de force. Donc vous avez 8 runes et 2 points de force dans votre main. 10 cartes en tout, qui va être votre main de base, la même pour tout le monde et qui va vous permettre de commencer à jouer. On va continuer sur le matériel. Les cartes sont pas mal. Moi, je trouvais que les cartes étaient. Étaient
bien. Moi, j'ai la version américaine, c'est une catastrophe. Mais... Non, mais
tu fais
réaliser ce que je les sens. Parce que moi, j'ai la toute première version en anglais, Chronicle of Godslayer. Les cartes, elles puent. Et quand t'as fini la partie, t'as les mains qui puent. Tu vas te laver les mains après la partie, quoi. C'est infernal. C'est une odeur, vraiment, c'est Joe Shimoa fait à bas coût. Parce que c'était la toute première version.
Mais c'est les Américains. Les Américains, ils savent pas faire des jeux. Hein.
Voilà, là, je pense qu'effectivement, Asmodée a retravaillé tout ça. Et après, il faudrait que je vérifie avec les deux boîtes. Je sais que sur la version américaine, les dos des cartes sont plus ou moins foncés aussi. La colorimétrie n'est pas respectée. Mais ça, c'est le cas de beaucoup de jeux. Hein. Je veux dire, même si dans Seven Wonders, tout ça, on sait déjà à l'avance si on a une carte d'une extension ou pas. Mais en français, ils ont fait ça bien.
Et puis. Alors, chose qui m'a émerveillé en fait, pour vous expliquer quand même le cheminement de tout ça, on a reçu l'extension des héros immortels. Et merci encore à Asmodée pour ça. Et n'ayant pas les règles complètes dans le jeu, je l'ai d'abord acheté Ascension of the Godslayer sur iOS. Et ensuite. J'ai acheté la boîte de base. Et on a beaucoup joué à la boîte de base, avec la boîte de base. C'est avec tout ça qu'on a pris le goût en fait, de Ascension. Et dans la boîte de base, il y a un truc assez bizarre. Enfin, je ne sais pas ce que tu en as pensé. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Un plateau.
Un plateau, il ne sert strictement à rien.
Qui est fort joli, ma foi.
Pardon.
Quoi ?
Oui, bien sûr, pour tenter qu'on aime les illustrations du jeu en général.
Non, parce qu'en fait, alors, les illustrations du jeu, on va y venir. Ou comme pour le mat, le plateau papier de Pokémon, vous avez en fait des emplacements opposés.
Ouais. Qui sont des indiques où placer les piles de cartes, mais bref, on n'a pas besoin de plateau. Mais c'est marrant parce que malgré tout, quand on y joue, on sort le plateau.
On est toujours.
C'est ça qui est paradoxal, c'est que ça a rien, mais du coup, on le sort quand même.
Et donc, contrairement à Dominion, on n'a pas les 25 cartes qui sont de base étalées sur la table.
Il y a 10 cartes, hein, Dominion.
10 cartes. Enfin, 10 par rapport à 25. Enfin, non, des 25. Ouais, mais c'est pas grave. On n'a pas toutes ces cartes-là. On a des cartes qui s'appellent des bistiques qui vont donner 2 runes plutôt que 1 dans votre main de départ. Des infanteries lourdes qui vont donner 2 points de force plutôt qu'un dans votre main de départ. Et puis, 2 monstres. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que ça ressemble à la fois à Dominion, puisqu'on va acheter, se faire son paquet et puis penser à la stratégie et puis faire tourner le paquet. Mais aussi, en même temps, à Thunderstone puisqu'il y a des monstres et il va y avoir un fanatique et un cultiste qui seront là et qu'on va pouvoir dégommer tous les tours. Et la différence aussi avec ces deux autres jeux, c'est que on va avoir sur la table, au milieu de la table, 6 cartes et donc on va en avoir à gérer, on va pouvoir acheter, on va pouvoir taper 6 cartes, monstres ou héros ou artefacts. Et c'est beaucoup plus simple pour moi. C'est-à-dire que plutôt que de me dire je vais faire un paquet en mettant ça, je regarde ce qu'elle est sur la carte, sur la table, et je dis bah tiens, cette carte, elle irait bien avec mon jeu, donc je la prends.
C'est ça qui est le drame de vous.
Et c'est là où ça rejoint un petit peu Rise of the Galaxy. C'est que le drame, c'est que tu dis bah il y a beaucoup de monstres, je vais acheter des infanteries lourdes, comme ça j'aurai de la force de frappe. Et en fait, quand tu as dégommé les 2 ou 3 monstres qui sont sur la entre guillemets la rivière. Au centre de la table,
ils appellent ça la ligne centrale, mais effectivement, c'est plus la rivière du poker. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que de toute façon, la force brute ne te permet pas de gagner.
Ouais, mais sauf que la force brute, tu peux toujours l'utiliser parce que tu as des.
Tu as les cultistes.
Des cultistes et cultistes tous les tours, avec 2 points de force, tu peux les virer. Tu as un point en fait, d'honneur, un point de victoire pour chaque 2 points de force que tu as tous les tours.
Mais le truc, c'est que si tu fais pas de force, tu vas aussi pas gagner. C'est ça qui est très fort dans le jeu, c'est que celui qui gagnera, c'est celui qui a su habilement mélanger les trucs. Mais il y a quand même une part de chance, puisque ce que je dis, là où c'est le drame, c'est par exemple, sous ton tour, tu sais pas trop, t'achètes des cartes. T'as pas forcément le choix qui te plaît au mieux, mais de toute façon, t'as pas le choix, tu peux acheter que ça ou rien, ou combattre les monstres qui sont là ou rien. Et admettons, tu achètes une carte, mais t'as plus assez de crédit pour le reste, et là arrive la carte, oh bah t'aurais bien voulu, mais elle fera pas le tour. Enfin, si tu joues à deux aussi, elle peut rester, mais ouais. Quand tu joues à trois ou quatre joueurs, tu la reverras jamais. Donc il y a une petite part de aléatoire qui est dedans, ça ne nuit pas, hein. Il faut juste savoir s'adapter, mais quand même des fois c'est juste la faute, t'as pas de chance, quoi. Tu fais une stratégie sur parce qu'il y a plusieurs factions et que t'arrives pas correctement, c'est dommage.
Il y a quand même une part d'aléatoire qui est non négligeable. Surtout, enfin moi j'ai joué exclusivement à deux joueurs, même sur iOS, je mets que deux joueurs, je joue pas jamais à plus. Je pense que c'est aussi plaisant de jouer à 3 ou à 4, mais tu perds vraiment du contrôle.
Ah oui, complètement.
Et c'est beaucoup plus aléatoire. Et en
c'est plus long en plus.
Et en plus, tu joues plus dans ton coin. Parce que quand tu as un joueur à gérer, tu sais ce qu'il fait.
Ouais.
Tu es censé savoir ce qu'il fait. Et puis tu dis, oh là là, je vais lui prendre cette carte ou je vais la bannir.
Mais tu bannis.
Alors il y a deux termes qui sont détruire et bannir, qui sont très importants. Et d'ailleurs, je ne sais pas si en anglais c'est ce qu'elle a, mais là, il y a une petite confusion entre les termes. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc tu vas supprimer la carte dont pourrait avoir besoin ton adversaire, et tu as vraiment une maîtrise, enfin tu as une maîtrise sur ce jeu. On va parler des illustrations, on va en finir avec ce sujet-là.
C'est tous les goûts, super beau.
Tous les goûts sont dans la nature. Moi j'en ai parlé à mon ami qui est graphiste, elle m'a dit que c'était un style crayonné. Et je trouvais ça très intéressant.
Ah, c'est pas un style BD.
Doodle. Crayonné.
Oui, c'est ça. Oui,
fait, quand tu regardes,
c'est ça le problème, c'est que c'est juste crayonné.
L'illustration.
Il
rigole là-bas.
Il s'envoie Olivier devant la beauté des illustrations. Non, très franchement,
franchement, elles sont pas moches.
Non, elles sont beaucoup mieux que dans la première boîte. Bah, tu y joues sa version iOS, tu les vois les illustrations. Je trouve que les apprentis et les milices, elles ont quand même gagné.
Ils ont développé.
Ouais, c'est vachement plus beau. C'est triste, hein, mais c'est plus beau que ce qu'il y avait avant. Attends, non, blague à part, il y a quand même des joueurs, je sais, une fois quand j'en avais parlé l'année dernière, il y a qui avait dit, mais vous rigolez, c'est un style qui est super beau, j'adore.
Mais il y a Gerline Ono qui a réagi sur Twitter, qui a dit que c'était pas moche. Alors moi maintenant, je vais pas dire que c'est...
Non, après chacun son truc. Moi, ça me fait vraiment penser aux premières cartes Magic. Là, il y en avait qui étaient vraiment particulièrement laides. Ça me fait penser à ça. Mais...
Et en fait, moi, ce que je préfère dans le jeu, c'est le plateau. Parce que le plateau est en nuance de marron,
ouais,
beige,
c'est marron, ouais.
D'un joli brun. Et je trouve ça rigolo, quoi. Enfin, je trouve ça beau, en fait.
Les cartes seraient juste en dégradé comme ça, tu préférerais
mais,
presque.
Voilà, mais après, c'est comme on a dit l'autre fois, c'est que tu les regardes et puis après, tu connais la carte, donc tu la vois même pas, quoi. Tu sais ce que ça fait.
Des fois, de toute façon, tu comprends même pas ce qu'il y a sur l'illustration. Tu vois même pas le monstre qui est dessus, que t'es censé dégommer.
Ah bah non. Minotaur, regarde le Minotaur, il ressemble à Minotaur.
Ouais, le Minotaur, ouais, non, mais il y en a.
Bref. Bref, vous ferez votre propre. Votre propre idée sur la partie illustration. Asmodée n'a pas touché cette partie-là, et en fin de compte, bon. Voilà, c'est un choix éditorial, que ce soit pour Asmodée ou l'éditeur principal, mais bon, voilà. Revenons au jeu, cette parenthèse étant close. Alors, tu as parlé des factions aussi, ça c'est intéressant. En fait, il y a quatre factions dans le jeu qui sont les Illuminés, le Néant, Lié à la Vie et les Mechas. Et en fait, c'est pour moi un peu comme les couleurs à...
Dans Magic ?
Ah non, Rise of the Galaxy, où tu vas avoir une façon de te développer qui est un peu différente. Et une interaction entre les cartes de même couleur. C'est pour ça que je fais un petit peu le lien avec Rise of the Galaxy. Les Illuminés, c'est des cartes plutôt bleues qui permettent de manipuler son paquet. Ça permet de piocher, ça permet de bannir, de copier un héros, des choses comme ça. Voilà. Bannir. Et là, j'étais pas content parce qu'ils ont utilisé deux termes qui sont bannir et détruire. Et pour moi, détruire, c'est enlever du jeu. Mais non. Pour eux, détruire, c'est défausser.
C'est comme dans Dominion, en fait, c'est les termes de Dominion. Dominion, il parle de écarter pour retirer du jeu,
ouais.
Et de détruire pour mettre à la défausse. Donc, tu vois, ils n'ont pas mis bannir, ils ont mis écarter dans Dominion.
Je ne suis pas content de Dominion. Monsieur Vaccarino, je ne suis pas content.
Non, mais ce n'est pas Monsieur Vaccarino, après c'est traduction ou c'est machin, mais je pense que c'est pour ça que...
Mais c'est comment en anglais?
En anglais, c'est destroy et ban.
Bon. Alors, Et c'est là qu'on peut avoir un petit temps d'arrêt. En fait, bannir, c'est quand on prend une carte et qu'on la retire de la partie.
Donc on la retire de sa main. Enfin, ou non,
de la partie. Ouais. Alors que ce soit depuis la ligne centrale ou depuis ta main. Il y a un truc qui est très bien, quelque chose d'appréciable par rapport à Dominion, c'est que Dominion, il te faut une carte, une stratégie pour pouvoir vider ton paquet. De base, étant donné que tu as un développement qui est un peu plus chaotique que Dominion, il te donne toujours la possibilité de tuner ton paquet. Tu as toujours des cartes, et ça c'est plutôt des cartes du néant, qui sont des cartes qui sont plutôt basées sur la force, et puis le bannissement, l'épuration de deck, et puis l'attache de monstres. Ces cartes-là, les cartes plutôt violettes, elles te permettent de retirer des cartes de ta main et ou retirer des cartes de la ligne centrale.
Ouais, c'est assez vrai depuis, c'est surtout cette extension qui amène ça. Les deux premières extensions, c'était moins facile de bannir des cartes de sa main.
Et ben donc, Asmodée a fait du super travail en fait.
Bah, ils ont choisi la bonne. Ils ont choisi. En fait, ils sont partis au bon moment. Ils ont choisi la bonne extension pour démarrer ce jeu en français.
Ouais.
S'ils ont choisi de pas faire Chronicles of the Godslayer, c'est parce qu'effectivement le jeu était, c'était déséquilibré. On va en reparler après. Ouais.
Donc les illuminés, plutôt manipulation de paquets, pioche, etc. Le néant, c'est le bannissement. Très important pour pouvoir enlever, par exemple, on vous a dit que chacun avait dans sa main de départ des apprentis et des milices. Ces cartes-là n'ont aucune valeur. C'est-à-dire, elles ne vous rapportent pas de points de...
C'est comme les cuivres à Dominion, quoi. On va dire. C'est vraiment des cartes de base qu'il faut essayer de se débarrasser rapidement.
Pas de points d'honneur, alors que toutes les autres cartes vont vous donner 1, 2, 3, jusqu'à 7 ou 8 points d'honneur.
Ouais, puis c'est mieux d'avoir des cartes... Enfin, il faut mieux épurer ton deck pour pas piocher ces cartes-là qui sont...
Il vaut mieux des cartes qui te donnent deux fois plus de runes ou deux fois plus de force que celle-ci. T'as des cartes vertes, dont la faction est liée à la vie. C'est plutôt des cartes qui te permettent de gagner de l'honneur et des runes. Et puis, il y a... Et quoi, qu'est-ce que j'ai dit ?
Non, rien. Non, c'est très bien.
Et puis, arrête de cliquer sur le... Et puis, tu as aussi une... une particularité qui s'appelle la réunion. C'est-à-dire que, rien à voir avec l'île, la réunion permet d'ajouter des effets si on a déjà joué ou qu'on va jouer une carte liée à la vie. C'est-à-dire que si tu as une carte qui va te donner plus un point d'honneur plus une rune et que tu as réunion, si tu as joué une autre carte liée à la vie, tu vas avoir encore un point d'honneur et une carte et un point d'honneur et puis une rune. Donc là, on sent bien qu'il y a une vraie synergie entre ces cartes-là. Et puis il y a une quatrième faction qui est une faction un petit peu particulière, c'est des artefacts, c'est les mécas. À savoir quand même que c'est vraiment une vraie particularité parce qu'on les pose devant soi. C'est des cartes qu'on va acheter et quand on les aura, on va les poser devant soi.
Elles ont un effet permanent.
Elles ont un effet permanent. Et deuxième particularité, elles ont elles te rapportent un nombre de points d'honneur qui est considérable. C'est-à-dire que tu as pratiquement autant de points d'honneur que le coût en runes.
Oui.
Et ça. Oui.
C'était là qu'était le défaut dans Chronicles of the Godslayer, c'est qu'elles étaient trop, il y en avait trop puissantes et celui qui en achetait le max gagnait.
Voilà. Alors ça, c'est un avantage, c'est un double avantage parce que ça te rapporte beaucoup de points et en plus c'est pas dans ta main. Donc c'est des cartes qui sont pas dans ta main, que tu vas pas piocher.
Heureusement qu'il y a des cartes qui vont te faire remonter les mécas dans la main.
Alors il y a ça et c'est surtout et voilà et donc ils ont mis des monstres qui, quand tu les tapes, permet de faire remonter les mécas dans ta main et donc ils vont permettre de rééquilibrer un petit peu le truc. Et puis, tu vois, il y a des synergies qui se font entre les différentes factions. On choisit. Moi, j'aime bien partir sur du lié à la vie parce que ça permet d'avoir d'engranger des runes et des points d'honneur.
Le cœur de lion, j'adore. Quand il tombe,
c'est rappelle-moi.
Il rapporte 3 points d'honneur et en plus, tu peux piocher une carte si tu as déjà joué un autre lié à la vie.
Ouais.
Il coûte 5, mais quand ça tombe, c'est super bon.
Et dans la boîte de base de la première édition Asmodée, donc dans la boîte de...
Les diamants sont éternels ?
Non, les âmes déchaînées. Les âmes déchaînées, donc la boîte de base. On va trouver aussi des cartes qui ont des...
Comment ça s'appelle ?
Des effets de destin. Par exemple, lorsque cette carte entre dans la ligne centrale, chaque joueur peut placer un héros de sa défausse sur le dessus de son paquet. L'effet de la carte a toujours une... concorde avec l'alignement, donc avec le j'ai dit.
Avec ses factions.
Avec la faction correspondante. Et ça rajoute un petit peu, ça rajoute un petit peu de chaos. C'est-à-dire que quand on sait que cette carte arrive dans la ligne centrale, tout le monde va avoir un effet qui va devoir subir. En général, plutôt bénéfique. Enfin, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer dans son dans sa stratégie.
C'est toujours bon et en vrai, c'est vraiment en rapport avec même avec l'effet souvent de la carte après si tu l'acquiers.
Ouais. Autre chose, il y a des monstres qui ont qui sont enseignés comme trophées. Et le trophée, en fait, va avec les événements. C'est-à-dire que régulièrement, il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'il y en a 6, 5 ou 6, il y a des événements.
Liés aux factions aussi.
Liés aux factions, et par exemple, donc il doit en avoir que 4.
Non, il y en a plus parce que...
Ouais, parce qu'il y a des événements de monstres. Ouais. Une fois durant son tour, c'est un événement illuminé. Lorsqu'un joueur défausse une ou plusieurs cartes, il peut reprendre l'une d'elles et l'ajouter à sa main. Donc, c'est un élément perturbateur, c'est un élément qui change le jeu, et en plus, trophée d'événement, piocher une carte. Donc si on a pendant un tour tué un fanatique qui est un petit peu plus difficile à tuer qu'un cultiste qui rapporte le même nombre de points d'honneur mais qui est un trophée, on peut utiliser ce trophée avec l'événement et puis l'événement de illuminé enfin qui
autant de fois qu'on veut dans son
l'événement le trophée d'événement lié à illuminé, c'est piocher une carte. Donc on peut dire j'ai un fanatique qu'on peut tuer qu'une seule fois et je vais l'échanger pour je vais l'utiliser pour piocher une carte.
Mais si tu as 3 points de force, tu retues un fanatique et tu peux re-avoir son effet.
C'est ça. Voilà.
Parce qu'en fait, les monstres à la base, quand on les tue, contrairement à Thunderstone dont on parlait au début, on ne prend pas la carte dans son deck. On jette la carte dans la défausse, elle part dans le néant. Fais gaffe, t'as mis un fanatique là-dedans. Et donc on prend le monstre et qui est mort et on le met dans le néant, donc dans la défausse. Mais par contre, ça dit en général, il a un effet genre vous gagnez 5 points d'honneur quand c'est un gros monstre ou 2 points d'honneur. Donc on prend dans les fameuses gemmes là qu'il y a dans la boîte et on les met devant soi pour marquer les points de victoire.
Petite précision, ces gemmes sont un décompte de tours. Quand il n'y en a plus, c'est fini.
C'est un jeu de course. C'est comme Race of the Galaxy.
C'est un jeu de course, tout à fait. Voilà. Ça, c'était ce qu'on va trouver dans la boîte de base, donc les âmes déchaînées. C'est en fait l'aboutissement de la boîte de base Godslayer. Avec déjà des développements pour
enrichir le jeu. Il n'y avait pas les événements, il n'y avait pas les trophées, il n'y avait pas tout ça. C'est arrivé après.
Et puis, alors, pour dire, hein, le destin et la partie événements, c'est quand même assez light. C'est-à-dire que, enfin, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais je trouve que c'est pas très... C'est pas... Ça va, quoi.
Non, ça n'a pas une grosse influence. Hein, pas... Et en plus, un événement, il peut rester très longtemps... Comme il peut être dégagé tout de suite, parce que dès qu'on pioche une carte événement pour mettre dans la ligne centrale, hop, il remplace l'événement en cours. Donc c'est vraiment les événements, c'est pas combien de temps ils vont rester, c'est complètement. Ça fait partie des aléatoires du jeu.
Et puis, dans l'extension, donc des héros immortels, vient une autre sorte de carte qui sont les gemmes d'âme. Et les gemmes d'âme, en fait, ce sont un petit paquet de cartes. Il y a quand même beaucoup, je sais pas combien, 20, 30. Qui sont associés à d'autres cartes, que ce soit des monstres, que ce soit des mechas, que ce soit autre chose. Quand on les joue, on peut piocher une gemme. Et là, moi j'ai un problème. C'est-à-dire que sur les gemmes, il peut y avoir n'importe quoi. Ça peut être piocher 2 cartes, chaque autre joueur peut piocher une carte, vous pouvez ensuite bannir une carte de la ligne centrale, donc tu pioches des cartes, tu fais piocher des cartes, en plus tu enlèves une carte du milieu. Éliminer un monstre d'une force de 4 ou moins, donc rien à voir. Faire l'acquisition d'un héros d'un coût inférieur ou égal à 3. Et je continue.
Total aléatoire, quoi. C'est ça que tu reproches.
Total aléatoire.
Il n'y a pas de lien avec.
Et tu peux dire, c'est pas grave, tu vas la garder et puis tu la joueras quand tu veux. Non. En fait, tu la joues, tu sais pas ce que tu vas piocher, mais tu vas piocher un truc et il va falloir le jouer dans le tour. À la fin du tour, c'est mort.
Ouais, il est perdu.
C'est perdu. Ouais, enfin bon, c'est nul de pouvoir. Enfin. C'est là tout l'intérêt du jeu, c'est est-ce que je vais perdre une ressource, c'est-à-dire est-ce que je vais dire je vais pas tuer le monstre ou je vais pas faire ceci, je vais pas piocher une carte. Ne pas piocher une carte dans ce jeu, ça peut être intéressant, c'est-à-dire se dire j'ai encore des sous mais je vais pas prendre de cartes parce que ça va pas dans le bon sens, quoique c'est toujours des points de victoire.
C'est toujours des points de victoire, mais bon. Non mais je suis d'accord, j'aime dame là-dessus, c'est... Mais à la différence, c'est qu'il n'y a pas non plus 50 fois, enfin, il n'y a pas tant de cartes non plus qui permettent d'en gagner. Enfin, moi, en tout cas, j'avais fait des parties. On n'a pas noté que ça avait. J'ai fait deux parties, je crois, seulement pour l'instant, avec Hero Immortal. On n'a pas noté que ça avait transfiguré le jeu complètement. Parce qu'on n'a pas trouvé que les gemmes, on les avait tant exploitées non plus.
Non, mais c'est ça. Enfin, nous, on les a jouées, quoi. Quand on pouvait en avoir, tu vois.
Ouais.
L'inutile, 4 points de force, vous pouvez bannir pour gagner une gemme d'âme.
Bon, bah voilà, en fait, ton idée, c'est de dire ils ont rajouté ça dans cette boîte parce qu'il fallait rajouter un nouveau. Parce qu'ils sont sentis obligés de rajouter un mécanisme et selon toi, il nuit plus au jeu qu'il apporte quelque chose.
Bah, c'est un peu ça. Conclusion, c'est un super jeu. Si vous n'avez pas encore de. Quoi ?
Est-ce possible ?
Quoi ?
Vous n'avez pas encore de deck building ?
Si vous n'avez pas encore de deck building,
vous écoutez Proxy Jeux, c'est impossible.
Si vous voulez vous y mettre, si vous avez envie de vous y mettre, il faut y aller. C'est un super jeu. C'est-à-dire que c'est le mécanisme de deck building avec le côté sympa de je peux me créer un jeu pour répondre à ce qui arrive. Même si ce n'est pas super optimisé, ce n'est pas grave parce que de toute façon, on ne sait pas ce qui va arriver. Donc on ne sait pas dans quel sens on doit faire avancer son jeu et dans quel sens on doit construire son jeu. Le jeu, je pense qu'il est plutôt bien équilibré en version de base, mais que quand on ajoute les gemmes, je trouve que c'est un peu n'importe quoi. C'est un peu n'importe quoi et en plus, c'est compliqué. Ça devient compliqué et tu perds du contrôle. C'est-à-dire plus ça va, plus enfin entre les deux extensions c'est notable et même avant avec God Slayer c'est encore plus notable. C'est-à-dire que plus tu avances et plus c'est compliqué de savoir dans quelle direction aller et d'avoir une maîtrise.
C'est un jeu, c'est un peu comme Resident Evil Galaxy, il faut quand même être opportuniste. Hein. Il faut effectivement savoir
d'autant
prendre.
D'autant plus parce que tu vas avoir les événements, tu vas avoir. Excuse-moi. Tu vas avoir la rivière, tu vas avoir les gemmes d'âme, tu vas avoir ceci, cela. C'est compliqué, ça devient compliqué en fait de se dire, il faut que je fasse attention à mes adversaires. Il faut que je fasse attention à ce que j'ai sur la rivière. Il faut que je fasse attention à réfléchir quand même un tout petit peu aux cartes que j'ai déjà prises et quelle direction je donne à mon deck. Il faut que je me dise quels sont les événements qui sont passés, quels événements je pourrais avoir, quelles gemmes d'âme je peux récupérer.
Ouais, mais la différence, c'est moins marquant qu'un Resource de Galaxie où tu dois quand même tenir une ligne, notamment parce qu'il y a des cartes qui marchent en combo.
Ouais.
Alors que là, tu n'as quand même pas trop d'effets combo, à part les liés à la vie où tu vas les liés à la vie, quand tu pars sur liés à la vie, tu as intérêt à démarrer à fond. Mais sur les autres, il y a moins cet effet combo quand même. Pour manipuler. Ah, mais les mechas, c'est les mechas par contre.
Et les mechas, en fait, ils transforment. En fait, les héros mechas transforment tous les artefacts en artefacts mecha. Il y a un vrai ensemble mecha. T'as un vrai ensemble lié à la vie. Et puis après, c'est plutôt si tu veux bastonner, tu prends du néant. Si tu veux piocher,
oui, tu vas prendre un peu des deux de toute façon.
De toute façon, il faut faire un panachage. Et donc, bref, je trouve que c'est une super édition. Je trouve qu'ils ne se sont pas ratés en choisissant la deuxième édition. La boîte de base est super. Même l'héros immortel, ça remplit son rôle, ça relance le jeu, mais je suis moins fan. C'est-à-dire que je suis très content d'avoir acheté la boîte de base parce que j'ai découvert un super jeu. Et je pense que si j'étais resté à l'extension, j'aurais été moins.
Donc tu conseilles de plutôt commencer par les âmes déchaînées plutôt que
les âmes déchaînées, c'est parfait. Vous pouvez jouer à 4, c'est pas la peine de toute façon d'y jouer à plus de 2-3.
J'ai joué à 4, à 4 non, ça va pas. À 3 ça va encore, mais 4 c'est devient trop long. On passe du temps à attendre son tour quoi.
C'est et puis quand il y a des combos qui se mettent en route, c'est des fois t'as envie de dire à l'autre, moi c'est bon, fais ton truc et puis
tu concèdes.
Et voilà, et puis on a des parties de lose, mais ça c'est pas grave, on a des parties où ça tourne super bien, c'est super bien. Donc clairement, vous l'aurez compris, je sur-conseille.
Tu sur-conseilles ?
Je sur-conseille, il faut l'acheter.
Okay. Petit delta, petit bémol, mais
modulo.
Petit modulo, mais ça va aller bien parce que le temps qu'on met en ligne, c'est qu'il est actuellement en rupture. Victime du succès, donc c'est quand même un bon signe aussi hein, d'un certain côté, mais le restock devrait arriver en mai.
Alors, et puis petite chose que je ne vous ai pas dit, la plasturgie est un peu bizarre quand on ouvre la boîte, on se dit mais pourquoi, et en fin de compte il y a juste la place pour mettre les 4 sets de départ, les 4 mains de départ, plus d'un côté les cartes qu'on a toujours en jeu, plus l'autre.
Non, enfin, c'est juste pour justifier une grosse boîte pour qu'elle soit visible sur l'étage.
Ouais, mais 35 mais... euros, c'est pas. Voilà, c'est, ça les vaut
pas.
Quoi.
Ouais, non, mais c'est pas. Voilà. C'est Asmodée, ils ont gardé le format de la boîte américaine.
Et bravo Asmodée. Moi, je dis juste.
Et t'as pas. Ouais, bravo. La traduction est bonne, du coup.
Oui, question il y a un peu de fluff sur les cartes. J'ai pas noté.
T'as pas vu de. Oui, non, mais je leur fais confiance hein, là-dessus.
Non, il y a pas de.
Alors, disons, tu dis que c'est Asmodée, c'est la branche Marabunta ouais, qui est dessus.
Bravo, Croc.
Voilà, exactement.
Ah ouais, c'est un jeu pour gamer. C'est bien, c'est super bien.
Je suis très content de l'avoir vu arriver en français. Ouais.
Quand j'ai vu après Libertalia qui faisait ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Et en fait, c'est bien.
Mais je fais leur confiance.
Mais je leur fais confiance. Et toi, qu'est-ce que t'en penses?
Ah bah moi j'en pense, moi je suis fan depuis plus d'un an, donc moi j'ai la version américaine. D'ailleurs j'ai Chronicle of the Godslayer, parce que j'ai commencé par ça, hein, Storm of Soul n'était pas encore sorti. Je le vends, si vous voulez, mais c'est pas la meilleure branche non plus pour commencer. Parce que c'était déséquilibré, ça sent pas à deux, mais ça sentait vraiment à 3-4 joueurs. Tu partais sur les mechas, c'était vraiment... on peut pas t'arrêter quoi. Tu partais sur les mechas et après tu engrangeais les points.
Faut que ça sorte.
Parce que il y a quand même un petit truc qu'on a peut-être pas dit, c'est que la partie
il y a des cartes qui sont cheatées. Si on n'a pas dit qu'il y a des cartes qui sont super cheatées et t'as des combos en fait. Je voulais te le dire tout à l'heure quand tu disais que c'était pas un jeu de chance.
C'est exceptionnel les combos.
Non. Enfin ouais, mais quand tu as la chance à ton tour, quand les deux ont les moyens de se payer.
Les méga marteaux là de.
Ou alpha, tu t'achètes une carte à 7 qui te fait automatiquement acquérir, ou tu bats un monstre à 7 qui te fait automatiquement acheter une autre carte. Quand tu fais 10 points, c'est juste
horrible. C'est le côté américain du jeu. Non, mais le truc, c'est qu'au début de la partie, en fonction du nombre de joueurs, on va mettre des points d'honneur. Et puis quand il n'y a plus de points d'honneur, c'est la fin de partie. Mais ce n'est pas forcément le joueur qui a le plus de points d'honneur devant lui, ceux qui sont représentés par les gemmes, qui va gagner, puisqu'après, il y a tous ceux qu'on a en main.
Ah oui.
Et ça, c'est une grosse c'est une dimension importante du jeu à avoir. Quoi. C'est effectivement faire gaffe, surtout à deux joueurs, ce que l'autre a à peu près acquis pour savoir si on est bien positionné ou pas.
Ah, je te dis, c'est un très bon jeu.
Donc là-dessus c'est très très bien. Voilà. Donc, non, moi je peux que vous le conseiller. Pour la version iOS, je sais pas si on fait sur si faire une review ou pas du truc.
Ouais, je vous en parlerai un tout petit peu très en
voilà
assez rapidement.
Mais l'idée c'est que bon, de toute façon, en gros, ça vous permettra de vous
oui,
vous y essayez quoi. Ça vous permet de vous d'essayer à moindre coût le jeu.
Oui, surtout que dans la boîte.
Et Rue Mortel arrive bientôt. Hein. En version
j'avais des Ori Mortels et il n'y a pas les règles en complète en fait. C'est un addendum sur la partie ce qui change par rapport à la boîte de base. Mais bon, alors là vraiment, je suis très très content d'avoir découvert ça. Donc Ascension, c'est un jeu de Robert Doherty, John Florio, Justine Gary, Brian Kilber, avec des illustrations de Eric Sabé. Si vous le rencontrez, vous pouvez lui jeter des trucs.
Tomates.
Chez Gary Games, et puis merci à Marabunta de nous avoir francisé par exemple en 2011 pour Storms and Souls of Souls, fin 2012 début 2013 pour des héros immortels. Donc Storms and Souls, c'est des âmes déchaînées. 1 à 4 joueurs pour des âmes déchaînées, 1 à 2 joueurs pour des héros immortels, mais je
vous conseille,
ouais, c'est 2-3-4 pour des âmes déchaînées, 2 joueurs pour héros immortels, et puis ça peut se mélanger.
Combiné pour 5-6 joueurs.
6, mais ne le faites pas. Et pour environ 35 euros, vous pouvez trouver moins cher chez Ludibazar.
31,40€ chez Ludibazar, actuellement précommande parce qu'il y a du restock pour la version âmes déchaînées, et héros immortels, 22,50€. Pareil en restock pour l'instant.
Et c'est pas très cher. Pour le prix.
Non, moi je trouve que le jeu est pas cher, vraiment, ouais. C'est pas cher par rapport à la qualité du jeu. Ouais. Alors j'enchaîne, on monte un petit peu en gamme avec Manhattan Project.
On monte en gamme, je voudrais savoir pourquoi on monte en gamme.
Pourquoi on monte en gamme? Parce que, je sais pas, parce que.
Si c'est plus long à jouer, non, à part ça.
C'est plus long à jouer et les choix sont difficiles. On va le voir, les choix sont difficiles.
On n'en avait pas déjà parlé de Manhattan Project?
On en a parlé juste peut-être un petit peu à Essen, parce que c'est un jeu qu'on avait mis dans le radar de Essen 2011.
Ah oui.
Ensuite, j'ai acquis à Essen 2012 et qui faisait partie des sélections de jeux de l'année 2012 par Thomas, qui est déjà venu intervenir une fois ou deux dans Proxy Jeux. Et qui donc avait qui voilà qui trouvait que c'était un très bon jeu, et donc Thomas et Amandine étaient venus nous en dire tout le bien qu'ils en pensaient. À l'époque, je n'avais pas encore pu jouer. Ah bah super, tu m'enlèves mon truc. À l'époque, je n'avais pas encore pu jouer, et je suis tout con, j'ai été content enfin d'avoir pu lui donner sa chance.
Lui donner sa chance. Ah, ouais, jeune premier, tiens, on va te donner sa chance.
Bah c'est ça. Hein, oui. Bah en fait, faut savoir qu'il y a des jeux que j'ai achetés. Donc il y a 6 mois et ça, j'ai toujours pas joué.
Ouh.
Et donc, bah, on y va doucement, on les pioche doucement. Donc, Manhattan Project, c'est un jeu de Brandon Tibbetts qui est publié uniquement pour l'instant chez les Américains Minion Games, qui est pas un gros éditeur.
Il se vend sous le manteau.
Bah, qui se vend, ouais, sous le manteau, on va dire, en import. Il n'y a qu'une seule boutique Orange qui, pour l'instant, le commercialise en France.
Orange.
En tout cas, en ligne.
C'est des télécom aussi ou...
Ouais. Je ne la nomme pas.
Ah, celle qu'on ne peut pas nommer. Celle qu'on ne peut pas nommer.
Voilà, vous ne la trouvez pas chez notre partenaire, chez notre sponsor.
Et c'est bien dommage.
Malheureusement. Donc, le principe de Manhattan Project, pour ceux qui auraient raté, je ne sais pas, un événement, qui ne sauraient pas trop les noms des projets, etc. Le projet Manhattan, évidemment, c'est la construction de la bombe nucléaire par les Américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc dans ce jeu, en fait, chaque joueur va représenter une faction quelconque. Il y a pas de nation attitrée qui va devoir fabriquer des bombes nucléaires pour marquer un maximum de points.
Oui.
C'est un jeu sous forme de course dans le sens où c'est le premier à 4 joueurs par exemple qui va atteindre 50 points. À 2, je crois que c'est 70 points. Donc c'est le premier joueur qui atteint un certain seuil de score qui gagne instantanément. Donc impossible qu'il y ait 2 joueurs ex aequo de toute façon. Et quand on parle d'aspect course, vous allez voir derrière que
c'est vrai.
C'est une vraie course, ça se joue vraiment à pas grand chose en général. Qui est le gagnant?
Ou pas.
Comment ça, ou pas?
Bah, ou pas, moi j'ai la seule.
Non, mais si, bon, t'es peut-être à la ramasse, tu veux dire ou... Il peut y avoir un joueur à la ramasse, mais il y en a en général qui se tiennent.
Oui, en fait, ouais, j'ai vu. En fait, la partie qu'on a fait. la joueuse qui a gagné. Mais vas-y.
Elle était en avance?
Non, alors, non, au contraire en fait.
Tout le monde se tenait.
Non, au contraire. Elle était complètement. Elle avait 2 bâtiments.
Attention, il y a un effet surprise dans le jeu.
Voilà, c'est ça.
Très très fort à ne pas négliger. Il y a l'effet surprise.
Ah bah là, elle est sortie du bois et puis elle a défoncé tout le monde.
C'est systématiquement ça. Il faut surveiller ses adversaires. En fait, c'est ça qu'on va voir, c'est que c'est un jeu qui a une interaction permanente, très forte entre tous les joueurs. Et c'est ce qui fait que ça marche. Le concept. Donc, c'est un jeu de gestion de pose d'ouvriers. Des ouvriers, il y en a 3 sortes. Au départ, il y a juste des ouvriers, on va dire des basiques. Je crois qu'on appelle ça des workers, travailleurs de base.
Ouais, c'est ça, en bleu.
Derrière, on va pouvoir avoir les ingénieurs, avec leur casque de chantier, et puis les scientifiques,
en bleu,
avec leurs lunettes. Donc, les ingénieurs, en gros, vont octroyer des bonus pour construire des bâtiments, notamment. Pour récupérer le yellow cake qui est l'uranium en fait à l'état brut, donc qui se trouve c'est des cubes jaunes. Et puis les scientifiques, eux, ça va plutôt être pour le design des bombes notamment.
Et y a pas les gens qui vont à la mine en Afrique.
La mine en Afrique.
Ouais, pour le yellow cake.
Bah les yellow cake, non, c'était un.
C'est politiquement correct alors.
C'est sûr, bah évidemment. Oui, on fait une bombe nucléaire, donc c'est politiquement correct. Le principe ensuite, c'est que les types de bombes, il y en a 2 sortes. On va pouvoir faire des bombes à l'uranium ou des bombes au plutonium. Donc, les bombes à l'uranium sont plus faciles un petit peu à produire. En tout cas, vont rapporter moins de points de victoire à l'unité. Mais par contre, on peut les garder comme ça. Les bombes au plutonium, par contre, il faudra, pour qu'elles marquent un maximum de points,
Faut
en faire péter une. Et ensuite en essai, évidemment, pas sur un autre joueur. Il faut en faire péter une en essai. C'est-à-dire que celle qu'on va faire péter ne va pas rapporter de points, ou quasiment pas. Par contre, ça va énormément, voire à mon avis quasiment doubler les points de toutes les autres bombes au plutonium qu'on fera. Attention, le choix de partir sur l'uranium ou le plutonium a un impact assez fort sur la stratégie évidemment que les joueurs vont adopter. Le reste, le principe du jeu, c'est de la pose ouvrier, c'est-à-dire qu'à son tour de jeu, on a 2 solutions. Ou bien on va poser. Alors, non, on va dire. Les joueurs, ils ont un plateau individuel sur lequel ils vont poser des bâtiments qu'ils vont acquérir au fur et à mesure de la partie.
Oui.
Le nombre de bâtiments n'est pas limité. C'est-à-dire que sur le plateau, il y a quoi ? On peut mettre 10 bâtiments, mais si on en achète plus, on peut les mettre un peu continuellement.
T'as déjà vu ça ?
Il n'y a pas de limite. L'autre jour, ouais, c'était limite. J'avais un joueur qui avait rempli son carton. et qui n'avait pas compris qu'en fait il pouvait continuer, donc il s'était un petit peu restreint sur la fin, alors que non pas du tout, on peut en mettre plus que le plateau individuel. Donc on a un plateau individuel sur lequel on a des bâtiments qu'on va acquérir au cours de la partie, et puis il y a un plateau central. À son tour de jeu, on a le choix entre poser un de ses ouvriers disponibles sur le plateau central ou bien récupérer tous ses ouvriers. Parce qu'au bout d'un moment, quand on les a placés, c'est un petit peu comme dans tournée, en fait. À un moment, on peut rappeler ces gars.
Il y a un rythme en fait à prendre.
Il y a un rythme à prendre, voilà, on va voir. Et ça, c'est très très important, c'est toujours la partie d'interaction. Et du coup, à son tour de jeu, si on place un ouvrier sur le plateau central, ensuite, les autres ouvriers qu'on a, on peut les disposer comme on veut sur les bâtiments de son plateau individuel. Mmh. En général, on le fait très rapidement. Quand on a tous ces ouvriers disponibles et qu'on a des bâtiments disponibles sur son plateau, on va aller mettre les ouvriers, etc., par rapport à ce qu'on a besoin.
Ouais.
Les bâtiments, ils vont permettre, et d'ailleurs les cases sur le plateau central, ça va permettre notamment d'extraire du yellow cake, donc de l'uranium à l'état naturel. Mmh. Ça va être d'utiliser les universités qui vont permettre de récupérer plus, de recruter plus d'ingénieurs, plus de scientifiques ou plus de travailleurs. Ça va être de fabriquer, on va voir après, donc de construire d'autres bâtiments. Ça va être aussi, sinon, de récupérer de l'argent. On va pouvoir gagner de l'argent de différentes façons.
Le nerf de la guerre.
En vendant des yellow cakes, notamment, ou bien, voilà, il y a besoin d'argent, parce que l'argent va permettre d'acheter les bâtiments, par exemple.
S'il vous plaît, je bombe Atomic.
Et l'argent peut aussi servir pour transformer les yellow cakes en uranium. Enrichi, on dit, hein, c'est ça. Uranium enrichi, et ou bien, sinon, on pourra faire aussi du plutonium. Et les autres aspects qu'il va y avoir, c'est que l'on va pouvoir construire des bombardiers ou des chasseurs.
Ouais, alors ça, c'est en fait...
pour mener des airstrikes, donc des attaques aériennes.
C'est l'interaction entre les
sur les adversaires.
C'est incroyable.
Ça, c'est un aspect très important. C'est un petit peu... un des joueurs avec qui je jouais, il comparait ce jeu en fait à Through the Ages. Pour lui, effectivement, il a sans doute raison. L'auteur a dû s'inspirer de Through the Ages sur ces aspects-là. Donc l'aspect militaire est à ne pas négliger, c'est-à-dire qu'un joueur qui a des bombardiers, si vous n'êtes pas protégé, vous allez vous faire, quand il fait un airstrike, il vient et il vous bombarde vos bâtiments que vous ne pourrez plus utiliser tant que vous ne les aurez pas réparés.
Mais c'est pour ça qu'il faut réparer ces chasseurs.
Réparer, c'est une action sur le plateau central. Et ouais, si vous avez des chasseurs, par contre, ça vous protège un petit peu des bombardiers.
Il faut aller envoyer ces chasseurs pour pouvoir...
Mais il peut y avoir des stratégies où un joueur va prendre beaucoup d'aériens, va faire beaucoup d'aériens pour vraiment en permanence attaquer les adversaires. Mais,
ouais, mais le problème,
ça va coûter beaucoup parce que quand il va faire ça, il peut plus se développer sur le reste.
Et puis, il ne faut pas faire, parce que sinon, après, tu deviens un petit peu... tu deviens la cible, en fait. Tu dis, ah, mais ouais, t'as fait des bombardiers. Ah, tu les protèges. Bah, attends, on va détruire tes chasseurs juste pour que tu sois un petit peu... que t'aies un peu peur, parce que sinon, t'es trop... Et c'est comme ça que celui qui est en embuscade gagne.
Ça enlise un petit peu le jeu. Eh ben oui, c'est pour ça, il faut savoir faire. Et une autre action importante, c'est le design... La création, le design des bombes. En fait, il y a en dessous du plateau central, il y a autant de bombes que le nombre de joueurs plus 1. Le joueur qui fait cette action, il faut quand même un ingénieur et un scientifique. Il faut savoir qu'au début de la partie, on a 0 ingénieur, 0 scientifique. Donc, il va déjà falloir les créer via les universités. Donc, le premier joueur va prendre les 5 cartes. Elles sont visibles hein, pendant plusieurs tours. Évidemment, tu les regardes à peine. Et puis d'un coup, un joueur dit tiens, bah, je vais faire ça. Moi, je vais faire design bomb. Et là, il prend les cartes. Il prend sa main. Et tu fais oh là, mais attends, qu'est-ce qu'il y avait déjà? Je ne me rappelle plus.
Ouais.
Le joueur, par exemple, on a 4 joueurs. Il va prendre 5 cartes en main. Il va en prendre une. Il en choisit une. Et ensuite, il passe à son voisin. Donc, il y a un draft qui se fait. Chacun choisit une carte et passe à son voisin. La dernière carte revient au joueur qui avait choisi l'action. Et donc, lui, il a eu 2 bombes. Ça, c'est juste, on va
bonne,
dire.
Et puis après.
Ouais, c'est la partie, on va dire. Donc,
l'autre.
Et ça, c'est la partie. Sur le plateau, c'est du blueprint, donc c'est exactement ça. Ils en sont vraiment en phase où on esquisse en fait le projet de bombe. Ensuite, à la fin de son tour, à chaque fois qu'on a fait une action, on a posé un ouvrier sur le plateau central, on peut très bien décider de créer une bombe, de développer une bombe. Développer une bombe, ça demande d'avoir un certain nombre d'ingénieurs, un certain nombre de scientifiques disponibles, et puis des ressources, donc de l'uranium ou du plutonium. Dans ces cas-là, on pose les cartes. On peut dévoiler autant de bombes, on peut avoir autant de cartes bombes en main qu'on veut, et on peut en dévoiler autant qu'on veut.
Et ça, c'est super important.
Ça, c'est super important. Mais attention, il y a une limite, c'est que de toute façon, au maximum, on ne pourra pas avoir plus que 8 unités d'uranium ou de plutonium. Et c'est ce qui fait qu'on ne pourra jamais dévoiler suffisamment de bombes pour gagner la partie en sec, en un seul tour.
Pour
4 joueurs, il faut 50 points. Il n'y a pas moyen de.
Non.
On va pouvoir les frôler hein, en
tu
un
peux
tour.
Pas faire 50 points en un tour, mais tu peux faire quelques-unes et
tu peux
après
faire 30 points
attendre. Et,
ouais, ah ouais, bien sûr. Et ensuite, les bombes qu'on a posées. Donc, on a le choix, quand c'est une bombe au plutonium, de la faire exploser pour que les prochaines bombes au plutonium rapportent plus de points. Et on a aussi la possibilité de les charger dans des bombardiers. Donc il faut avoir des bombardiers. Ça coûte de l'argent. L'argent, c'est pas facile à avoir. L'argent, ça coûte de l'argent de charger ces bombes dans les avions. Mais par contre, si on les a chargées dans les avions, elles rapportent quand même 5 points de victoire supplémentaire. Pour donner une idée, à 4 joueurs, on gagne en 50 points. 50 points, ça se fait en 2 bombes chargées sur des avions. Hein. Donc ça va très vite.
Ouais.
En sachant qu'on peut le faire quasiment, enfin, comme on dit, on peut pas poser, faire 50 points en un tour, mais d'un coup, un joueur peut très bien avoir révélé avec des petites bombes, et d'un coup, il sort de la grosse bombe qu'il a chargée sur un avion, et c'est parti, il a gagné. Hein.
Ouais.
Attention quand même, normalement, je dis bien normalement, on a fait attention aux bombes qui sont disponibles, puisqu'elles sont toujours visibles, les bombes qui vont être draftées.
Mais ça, il faut
donc on est quand même un petit peu capable de savoir qui a récupéré quoi.
Il faut avoir 2-3 parties pour faire attention.
Ah bah évidemment.
Il y a tellement de choses à gérer en fin de compte.
Ah oui, non, mais c'est pour ça, mais c'est parti l'interaction. Il faut quand même un petit peu savoir. Et dès qu'un joueur pose des bombes, il faut se dire attention, il peut la charger dans un bombardier quand il veut, ça lui rapporte 5 points de plus. Il faut le compter, en fait, dès le départ, il faut se dire il a 5 points de plus avec ça, quoi.
Ouais.
Parce qu'il y a des joueurs qui se font pas surpris parce que tu les as chargés. Tu dis non, à partir du moment où elle est posée, dis-toi qu'elle va être chargée. Quoi. Il y a 5 points potentiels, il peut être ramassé. Voilà le principe, donc, c'est qu'on pose. Donc souvent, on va poser des ouvriers, etc. Mais il y a quand même de temps en temps, effectivement, il faut les rappeler. Et savoir quand est-ce qu'on va rappeler ces ouvriers, c'est très très important. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'on a un nombre limité d'ouvriers. Au départ, on a 4 travailleurs neutres en début de partie, on pourra pas en avoir plus. Il y a 4 ingénieurs et 4 scientifiques qu'on peut recruter pour soi, à sa couleur. Ensuite, on peut faire appel à des alternants, à des prestataires. Vous faites appel à une société de services externes. C'est des bonhommes en gris. Et c'est pareil, donc dans ces cas-là, si vous produisez par exemple un 5e ingénieur ou un 5e scientifique, vous le prenez de ce pot commun en gris. Et vous allez jouer à un moment, vous allez le placer sur le plateau central, etc. Et quand un joueur va rappeler tous ses ouvriers, tous les bonhommes gris, ils retournent au pool automatiquement. C'est important de monter au-delà de ces 4 de départ, notamment pour de temps en temps faire justement pouvoir développer les bombes.
Mais au bon moment.
Et pourquoi c'est important de rappeler ces bonhommes au bon moment? C'est passé un jeu de pose ouvrier, c'est-à-dire quand un ouvrier est sur une case, il l'occupe et personne d'autre peut venir. Et donc c'est important de pouvoir revenir un petit peu plus tôt que les autres joueurs.
T'as pas un truc qui s'appelle l'espionnage ou...
Et justement, attends, j'en reviens après, j'en ai parlé avant. Et justement. Autre aspect très 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 important dans le jeu, il y a l'espionnage. L'espionnage, comment ça se concrétise? Déjà, ça va vous coûter 3 dollars. C'est pas cher 3 dollars, hein, absolument. Mais en fait, le dollar, on va dire que c'est du million de dollars. Là, voilà. Donc ça vous coûte 3 dollars. Et évidemment, il faut occuper un slot qui est rarement disponible. Et quand vous mettez un bonhomme là, pendant ce tour, vous pouvez placer tous vos pions dans les bâtiments adverses. Quand c'est la première fois que vous avez fait l'espionnage de la partie, vous pourrez le placer que dans un bâtiment adverse. Quand ce sera la deuxième fois, vous pourrez placer en 2 bâtiments, 3 bâtiments et ainsi de suite.
Ouais, c'est important l'espionnage.
Et là, donc, vous allez placer donc, vos pions dans les bâtiments adverses. Mais comme je l'ai dit, souvent les bâtiments, on les occupe très rapidement. Donc encore une fois, il y a une question de bien gérer le timing, c'est-à-dire avoir ramené ces bonhommes juste à temps avant que les autres joueurs ramènent les leurs chez eux et se placer du coup sur l'espionnage quand leurs bâtiments sont disponibles. Ça, c'est un moyen, non seulement ça va gêner l'adversaire parce que le bâtiment à lui, il est plus disponible, c'est un petit peu comme dans Aura Labora, dans plein de jeux comme ça. On l'a un petit peu dans Tournée d'ailleurs ce concept.
Prendre l'interaction.
Et voilà. Et puis on va aussi pouvoir bénéficier du pouvoir de ce bâtiment. Il y a des bâtiments qui sont beaucoup plus forts que d'autres évidemment et qu'on va vouloir utiliser. Par contre, un bonhomme qu'on met comme ça chez des ouvriers qu'on va placer sur le plateau d'un adversaire, on va pas les récupérer tant que l'adversaire ne va pas rappeler ses bonhommes. Et de temps en temps, ça peut durer un petit moment. Hein. On paye aussi. Enfin, l'autre joueur peut nous le faire payer de ce côté-là en disant. Attends-toi mon gars, je vais prendre mon temps avant de les rappeler. Tant pis, ça fait partie du jeu. Il y a la partie, donc on a dit au niveau interaction, il y a la partie bombardement qui fait très mal puisque ensuite on peut très bien un joueur qui décide de faire l'action airstrike et si vous n'êtes pas protégé, il peut vous bombarder chacun de vos bâtiments et tous ces bâtiments qui ont été bombardés ne peuvent plus être utilisés tant que vous n'avez pas réparé.
Et réparer, dit 3
ça coûte cher. Ça coûte, si vous payez 5 dollars, vous pouvez réparer 3 points. Donc en gros 3 points de bombardement, donc 3 bâtiments qui ont
et
un bombardement.
Là,
et les adversaires peuvent payer pour se réparer les leurs.
Est-ce que tout le monde peut y aller ou alors c'est comme c'est un bâtiment et il n'y a qu'une seule personne qui peut y aller?
Il n'y a qu'un seul joueur qui y va. Quand il y va, il paye 5 dollars, il peut réparer 3 points de bâtiment. C'est-à-dire que,
parce
que quand tu bombardes, tu peux mettre 3 points sur un même bâtiment ou bien 1 point sur 3 bâtiments.
Alors ça veut dire qu'il y a un timing pour tout. Pour acheter ces bonhommes, pour les poser, pour prendre les bombes, pour les enlever. Et les réparations, c'est pareil. C'est-à-dire que si tu te fais baiser parce
que tu
n'as pas de place...
Mais quand tu répares... Bah, Oui, et quand tu répares, toi, tes adversaires vont pouvoir réparer aussi. Ah, le premier point qui répare, ça leur coûte 2$. Le deuxième, 3 points. Et le troisième, 5$. Donc, s'il répare 3 points, ça leur coûte 10$. Ouais, mais des fois, tu vas pas. Ton bâtiment, tu as mal réparé. Mais tu dis, ah, mais mes adversaires, tu regardes l'argent qu'ils ont, parce que l'argent est public. Tu fais, ah non, ils ont trop d'argent. Bah, tant pis, mon bâtiment, c'est pas grave, je peux attendre un tour de plus, quoi. Ou alors, tu dis, ah, lui, il s'est encore plus fait raser. Il va y aller avant. Moi, je prépare juste mon argent et je réparerai juste les bâtiments. Ça sert à rien de tout réparer. Il faut réparer que ce qu'on a besoin.
Bah oui.
Donc, interaction très forte. Vraiment
optimisé dans ce jeu.
Ah, c'est incroyable. C'est un jeu de course. C'est un jeu de beaucoup, 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 beaucoup d'optimisation.
Bah, Manhattan Project, excuse-moi, mais c'était, dans la réalité, c'était une course.
Ah ouais, c'est ça. La particularité, donc, il y a une piste de bâtiments, évidemment. Je n'ai pas trop parlé des bâtiments qu'on peut construire. Donc, différents types de bâtiments. Et les bâtiments sont complètement aléatoirement, à part 6 bâtiments au début de la partie, forcément pour faire démarrer un peu le jeu. Après, ça arrive de manière totalement aléatoire. Et puis, bah, c'est pareil, c'est-à-dire que le bâtiment qui est le plus à gauche coûte pas cher. Et puis, les bâtiments, les bâtiments qui viennent d'arriver coûtent 20$, 14$, 10$, et ainsi de suite. Ça baisse après un petit peu. Mais donc, il y a évidemment, comme tous les jeux de pose ouvrier, en début de partie, les joueurs vont se battre sur les mêmes cases. Et puis, petit à petit, il y a des cases qu'on ne voit plus aller à l'université. Au bout d'un moment, ça n'intéresse plus personne. Les constructions de bâtiments, au bout d'un moment, ça n'intéresse plus personne. Puisque tout le monde a déjà tourné son industrie vers la production de bombes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a à en dire ? C'est un jeu qui est intense. Qui, même quand on ne joue pas, de toute façon, il faut être toujours vigilant à ce que font les adversaires. C'est assez rapide, puisqu'à son tour, de toute façon, on ne fait pas non plus beaucoup d'actions.
Ouais, c'est rapide, oui, oui.
Non, un tour de table, etc., c'est rapide. Après, une partie, ça dure à 4, ça va durer moins de 2 heures, on va dire 1 heure et demie à 2 heures. Mais c'est intense, on ne verra pas le temps passer. Et attention, beaucoup, beaucoup d'interactions, et vraiment faire attention aux joueurs qui vont sortir d'un coup 30, 40. Moi, je suis comme ça, hein. Je suis du genre de jeu, j'ai 10 pauvres points sur la table, et d'un coup, blam, tout est prêt, et je te dégaine 40 points.
Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, donc moi, la partie que j'ai faite a ressemblé à ça. C'est-à-dire qu'il y avait, je l'ai fait avec Thomas Détrin.
Il était rodé, devant lui.
Bah, il était devant, il connaissait la partie, il fanfaronnait en disant voilà, je fais ça. Voilà. Il se chicanait avec sa belle, et en fin de compte, c'est la mienne qui a fait deux bâtiments et puis qui attendait son heure. Elle faisait pas parler d'elle.
Ouais, mais on l'entendait pas. Cisuranium, c'est
plus. Et tu vous regardes les avions. Tu dis ah, il a plein d'avions. Il va venir m'attaquer. Et puis toi, tu donnes des ressources en allant l'attaquer lui. Donc en fin de compte, tu perds et tu fais perdre. Et au final, bah, c'est celui qui dit rien et qui est pas un danger pour les autres a priori. Ou visiblement, qui s'en sort le mieux et qui peut s'en sortir le mieux. Ouais. Après, quand tu rentres un petit peu d'entraînement, bah, tu dis oh, ok, attends, tu vas voir toi.
Mais c'est un jeu intéressant au niveau interaction qu'on voit pas trop dans les jeux format allemand, parce que tu peux aller faire des raids sur les adversaires, tu peux aller espionner et occuper leurs bâtiments. C'est ces côtés un petit peu politiquement incorrects, on va dire, qui donnent au jeu une dimension supplémentaire d'interaction. Et qui fait que ça marche. Maintenant, j'ai vu un joueur aussi qui était à fond sur l'aviation, mais à un tel point qu'en fait, on ne pouvait même pas nous rivaliser, puisque de toute façon, il avait raflé quasiment toutes les usines à avions qui étaient passées dans les bâtiments. Mais la contrepartie de ça, c'est que c'est sûr que lui, il est venu nous bombarder régulièrement. Mais finalement, quand un joueur fait réparation, comme tous les autres peuvent en profiter, tu arrives à t'en sortir. Et lui, le problème, c'est qu'il avait en parallèle pas pu acheter de bâtiments qui produisaient de l'uranium ou du plutonium, et il n'a pas pu développer ses bombes.
Bah, se protéger, ça sert pas si tu peux pas protéger. Enfin, si tu as rien à protéger, c'est nul, quoi.
Voilà, mais lui, il est venu nous ralentir. Il nous a beaucoup ralenti, hein, quand même. Hein. Il y a des tours, tu dis, je vais pas y arriver. Mais en fait, au final, lui, il est pas arrivé non plus, parce que maintenant, si un joueur arrive à la fois à l'avoir, les usines d'uranium et de plutonium, ou en tout cas suffisamment pour aller faire sa stratégie, et en plus qu'il y a l'hégémonie aérienne, tu peux concéder. Hein.
C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser les autres se développer.
Ah oui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'interactions.
Ouais.
Il faut développer ses chasseurs, etc., pour raser. Donc c'est un jeu que je conseille, évidemment, hein, vous l'aurez compris. Par contre, c'est un jeu pour joueurs déjà un petit peu avertis. C'est pour parce que les choix sont difficiles. Il faut vraiment donner à son jeu une orientation stratégique à des moments clés de la partie. Il faut vraiment surveiller ce que font ses adversaires. Il faut pas hésiter. Alors attention, hein, c'est aussi quand je dis le jeu est pas politiquement correct, quand on est habitué au jeu allemand où chacun joue sur son plateau, attention. Ici, avec le fait des raids aériens, etc., il y a des joueurs qui peuvent faire une petite tension autour de la table quand même. Hein. Moi, j'ai vu dans une partie un joueur qui a quand même raidé 5, il a balancé 7 sur les 7 bâtiments d'un adversaire et il les a tous dégommés en un. Il a dit, tiens, toi, tu dégommes celui-là. Le joueur, il rame après, derrière. Mais bon, on ne s'est pas protégé. Il faut assumer ses choix. Ouais, non, mais voilà. Le joueur, il sent le moral qui tombe un peu à zéro à ce moment-là. Donc, il faut en être conscient. Quoi. Ça peut nuire un petit peu à l'ambiance. Voilà, comme je dis toujours, on choisit avec qui on joue. En fonction du jeu auquel on veut jouer, il faut choisir ses joueurs. Petit mot sur le graphisme. On parle toujours des illustrateurs, de leur travail. J'aime beaucoup le design très années 50.
Qui a fait ça?
Dans le, je ne sais pas. Mais l'éditeur, il a donné un style au niveau de la typo, au niveau du. On est vraiment dans l'ambiance, quoi.
Un peu à la Fallout.
Ouais, c'est ouais.
Un puis... petit peu. Hein, non, mais moi je trouve. Blanc,
la,
vieille,
la police, c'est vraiment. C'est voilà. C'est vraiment, on a vraiment l'impression d'avoir
les affiches.
Les affiches, ouais, le design, c'est vraiment. On est tout dans le design. Le plateau aussi complet. J'aime beaucoup ce style. Et j'ai pas parlé des ouvriers qui habituellement sont traditionnellement des pions en bois. Et là, ils ont utilisé des jetons.
Pions en bois.
Bah, c'est en bois, tu vois, tes petits meeples, etc. Là, non, justement, ils ont mis des pions en carton. Pourquoi? Bah, en fait, c'est beaucoup plus facile de repérer qui est le scientifique, qui est l'ingénieur avec ces en carton, et comme on les manipule beaucoup, ils n'arrêtent pas d'aller et venir. Ils ont fait des cartons,
un centimètre de
voilà, ils sont épais, ils font un demi centimètre. Mais c'est très bien, ils ont eu raison et c'est le bon choix, quoi.
Ouais.
Le seul défaut de Manhattan Project, c'est que c'est de l'import américain seulement.
Pas très trop.
Et moi, ça fait typiquement partie des jeux qu'un éditeur français devrait sortir en France. Je pense que c'est peut-être le thème un petit peu de la bombe nucléaire, tout ça qui ne plaît pas. C'est sûr, au début, aux joueurs, on dit ouais, il faut fabriquer la bombe nucléaire. Ils disent, oh, t'es sûr, tout ça. À la fin de la partie, ils font bon, quand est-ce qu'on y rejoue?
En fait, c'est de la recherche fondamentale. C'est-à-dire que tu.
Ouais, enfin, tu fais péter les bombes, mais tu les envoies jamais. Même si tu as développé la bombe, tu vas pas la péter sur l'adversaire.
La France n'a jamais envoyé de bombe nucléaire sur qui que ce soit. Donc,
Non, tu ne comptes pas les essais en Algérie.
Une
c'est
petite
bon.
Pensée au Maghreb. Pour le Maghreb. Effectivement, mais après, risque, tu vas décimer des peuples dans ce cas-là. Tu vois,
non,
c'est
rien,
pas très politiquement correct non plus.
C'est des plans politiques. Oui, bien sûr, mais là c'est encore pire parce que c'est quand même la bombe.
Et puis Porto Rico, tu vas faire travailler des noirs dans des champs de coton.
Des colons.
Non, mais bon, après, voilà.
Oui, quoi. Oui, non, mais je sais pas si c'est ça qui bloque, c'est le fait que tu vas un peu attaquer les adversaires.
Allez, on peut faire de l'esclavagisme, mais quand on parle de colons.
Voilà.
Et tiens, j'ai.
Non, mais peut-être, je dis ça, peut-être qu'en fait, il y a un éditeur français qui a peut-être signé, mais il n'a pas communiqué dessus. Hein.
J'ai entendu ça sur quelqu'un, le politiquement correct dans les jeux, quelqu'un qui parlait des colons de Catan en disant ok, mais il y avait qui avant? Et en fin de compte, en creusant, la personne. Non, mais la personne à qui on adressait cette question s'est rendu compte que la personne qui posait la question, c'était une personne qui venait de Palestine. Donc le politiquement correct dans les jeux, après ça se discute, quoi. Je veux dire, c'est voilà quoi. Manhattan Project, on a vu comment il s'appelle celui qui fait ces jeux très bizarres et qui a fait Meltdown 2030 ou 2020
ouais, qui était juste c'était post
mais post Fukushima, mais je pense qu'il s'avait été préparé depuis plus longtemps, en fait. C'est venu à un moment où voilà quoi, et bon bref.
Voilà, bon, faut pas s'arrêter au thème. Dites-vous que vous avez un jeu de gestion très fort, très intense.
Ouais, beaucoup de choses. Enfin, pour moi, c'était un peu trop.
C'est exigeant.
Il y avait beaucoup de choses à penser et le fait que ce soit une course et qu'il y ait beaucoup de choses à penser, ça veut dire que la première partie, si tu ne la fais pas avec des gens qui ont le même niveau que toi, c'est.
C'est possible. Hein, nous, on a découvert le jeu, le groupe de joueurs qui a découvert le jeu en même temps, effectivement.
Ouais. Et puis, en fait, la personne qui a gagné à ma partie, en fait, n'avait pas joué, donc elle ne connaissait pas le jeu. Donc, je dis.
Ouais, mais ça, c'est parce que c'est typique quand tu as deux joueurs qui maîtrisent le jeu, qui vont du coup se taper un peu plus dessus et en n'osant pas taper sur les autres.
C'est ça. Enfin, nous, on tapait sur celui qu'on pensait maîtriser le jeu, quoi.
Et ouais. Mais ça, c'est d'autres choses.
Tu rappelles.
Manhattan Project, donc c'est un jeu de Brandon Tibbetts, publié chez Minion Games.
C'est introuvable.
C'est trouvable à la boutique Orange pour des joueurs à partir de 13 ans, 2 à 5 joueurs, et pour 2 heures environ.
Et qui a au moins 45 euros ?
Qui est dans les 40-50 euros, ouais.
Ouais.
Ouais, ouais. Mais enfin, qu'il est beau, hein, y a pas de problème.
Et puis, ben, la rubrique à l'écran va être assez rapide, puisque on va vous reparler de Ascension, Chronicle of the God Slayer.
Tu nous présentes le jeu ?
Je vais vous présenter Ascension. Non, juste un petit retour pour vous rappeler que vous pouvez jouer à Ascension sur votre device iOS, que ce soit un iPhone ou un iPad, que le jeu est vendu à 4,99€ en version universelle, et ça c'est bien. Si vous avez deux devices à maison, vous pouvez jouer online si vous avez un compte Game Center.
Sur iPhone, c'est qu'un petit. Hein, mais...
Et moi, je joue sur iPhone et j'en suis fort content. Et donc, sur iPhone, donc, quand vous lancez une partie, vous avez deux niveaux d'IA où vous pouvez jouer contre un humain. Le premier niveau d'IA est assez faible, c'est-à-dire que je l'ai assez
vite gagné. Oui.
Le deuxième, va avec le hasard de la pioche, c'est-à-dire que en général, je peux le battre plutôt une fois sur deux, peut-être deux fois sur trois, mais plutôt une fois sur deux. On a le choix.
J'attends toujours le troisième niveau.
Oui, parce que c'est grisé.
Ouais, tu peux pas. Il y a toujours que deux niveaux, mais à mon avis, il y en a un troisième qui va arriver.
Ouais. Donc vous avez le choix entre de base vous achetez pour 4,49€ Ascension of the Ghost Slayer, et puis pour 2,69€ vous pouvez rajouter Return of the Fallen, et puis après Storms of Soul pour 3,59€ et un promo pack pour 0,89€. Mais alors promo pack, je suis pas sûr que ça en vaille le coup.
Non, et c'est le roi rat, ça sert à rien.
Ouais, c'est 4€.
Je vous conseille surtout en fait Storm of Soul. Si vous devez acheter un truc, c'est Storm of Soul.
Ouais.
Pour jouer à Storm of Soul.
Enfin, même rien que l'ascension The Ghost Slayer, ça vaut le coup. Quoi.
Ouais.
Ça vaut le coup. On a le choix. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est qu'on a le choix à garder en mémoire 6 parties. C'est-à-dire, tu peux commencer 6 parties et puis ne pas les finir. Quand tu les commences, tu peux aller plus ou moins en points d'honneur, c'est-à-dire que tu peux commencer à 60 et arriver jusqu'à 120 points d'honneur. Donc tu peux faire durer la partie et puis mettre en jeu plus de points de victoire, ce que tu vas gagner pendant la partie. Et puis tu vas pouvoir avoir la possibilité de jouer à 4. Alors ça peut être 4 personnes autour de l'iPad, ou alors ça peut être toi et 3 IA, ou 2 IA, ou 1 IA. Tu peux aussi jouer via le Game Center aussi. Et ça, ouais, c'est bien. Sauf que il faut mieux. Enfin, on a la possibilité de mettre un temps en fait en deux parties. Et heureusement, ça va jusqu'à 28 jours parce qu'au départ, on avait mis une journée. Et en fait, ça décompte c'est toute la journée. Enfin, ça marche pas. Mais bon, c'est pas très grave. On a mis 28 jours et puis on a eu le temps de faire notre partie.
28 jours plus tard.
Voilà. Je trouve que la présentation est très bien faite. On a au milieu en plus gros la rivière, et puis en bas on a ses cartes, ses propres cartes. On a les cartes qui sont disponibles et en fait on voit ce que fait l'autre. Et on a la possibilité soit de jouer toutes les cartes, soit d'en jouer qu'une partie, c'est-à-dire tu peux jouer à la main les cartes les unes après les autres, ce qui va faire incrémenter en fait le nombre de runes et le nombre de points de force que tu vas avoir, ou alors tu dis play all et tu vas tout jouer. Le problème avec Play All, donc d'abord c'est en anglais, vous l'aurez compris, c'est un jeu qui est en anglais et pas en français, qui n'a pas été francisé. Mais la problématique avec Play All, c'est que vous avez des cartes qui ont une interaction les unes entre les autres. Par exemple, je copie le héros que je viens de jouer. C'est-à-dire que si tu les joues en premier, bah, tu copies rien du tout.
Ouais.
Donc il faut d'abord jouer ton héros et après jouer celle-là. Et en fait, comme elles sont dans l'ordre dans lesquelles elles ont été tirées, il faut réfléchir un tout petit peu, et puis tu peux pas faire ça tout le temps. Mais c'est une aide claire au jeu, parce que tu peux dire ben voilà, j'ai des cartes basiques, je fais play all, j'ai le nombre de runes, le nombre de points de victoire, et puis encadré en vert fluo, j'ai les cartes que je peux jouer. Donc ça,
c'est
super bien quoi.
C'est la mode qui a choisi Playdeck dans tous leurs jeux. C'est pareil dans Nightfall, etc. Si vous connaissez déjà cette façon de surligner, on va dire, les zones où vous pouvez faire des actions ou pas en vert et rouge, c'est très très bien effectivement.
Bah c'est bien, c'est bien.
On n'est jamais perdu.
À tout moment, on peut regarder dans le deck de son adversaire ou la défaut de son adversaire ou sa défaut à soi. On a le nombre de points d'honneur de son adversaire et ses points d'honneur. On a le nombre d'artefacts qui ont été joués. Donc on peut cliquer sur ce nombre-là et puis on voit les 1, 2, 3 artefacts qui ont été joués. On peut regarder. En cliquant, en tapotant sur la carte, on peut voir ce qu'elle fait. Donc elle s'agrandit. elle prend toute la hauteur du téléphone, donc c'est bien. Enfin, c'est très lisible. Après, à droite, tu peux avoir play, ou tu vas avoir donc jouer, ou utiliser, ou autre chose, ou bannir. Et puis tu as les cartes aussi en main, les cartes dans la défausse. Hein, tu as toutes les informations qui sont sous la main. Et alors, le seul problème, c'est après de fermer ces petites. Quand tu ouvres une fenêtre, enfin, quand tu développes un bout de l'écran, après, il faut prendre le coup pour retaper au bon endroit pour pouvoir le fermer. Mais ça vient vite. Et en fin de compte, on se prend au jeu parce qu'en double tapant sur la carte de la rivière, on peut avoir ce que ça fait. Donc, avec l'illustration, on arrive assez rapidement à voir ce que ça donne. C'est bien fichu parce qu'en fin de compte, à part le fait qu'ils n'utilisent pas automatiquement les artefacts que tu as choisis, c'est-à-dire tu vas les
oui, c'est à toi de les prendre et puis ils sont cachés un peu en bas.
Voilà, ça, c'est la seule difficulté. Tout est facile à prendre en main, tout est facile à voir, tu as toutes les informations. À la fin de ton tour, tu appuies sur End Turn. Ils te demandent si tu es vraiment sûr de vouloir finir ton tour, si tu as encore des actions à jouer. Et puis voilà quoi, tu peux voir ce que jouait ton adversaire, ce qu'il vient d'acheter. Enfin, c'est voilà, je trouve que c'est une vraie réussite. En fin de compte, ça te permet d'avoir de prendre en main le jeu. Moi, ça m'a permis justement de pas rentrer dans l'extension tout de suite, de commencer à prendre en main le jeu et puis de me dire bah voilà, maintenant je sais jouer, j'ai même plus à lire l'arrêt quoi.
C'est comme ça que j'ai découvert le jeu moi avant de l'acheter en version plateau. J'ai vraiment découvert avec iOS. Ouais.
On s'est posé la question sur des points de règles, mais rien d'insurmontable et puis ça va bien quoi. Donc on a fait un nombre incalculable de parties. J'ai fait un nombre incalculable de parties tout seul. J'en ai fait en ligne. Ça prend 5-10 minutes le temps d'un trajet de métro. C'est très addictif. Ça permet justement de pouvoir, comme tous ces jeux en ligne, pouvoir aller un peu au fond des choses dans le jeu de cartes. Et puis de connaître les cartes, de faire des stratégies qu'on n'a pas forcément le temps de faire, de mettre en place quand on...
C'était en plus rapide de jouer en version numérique, effectivement.
Donc tu t'essayes des trucs, tu dis bah tiens, je vais essayer de faire une stratégie plutôt oui. Méca.
Tu t'en fous si tu perds contre l'ordinateur, c'est t'en ça. Fous, personne n'est au courant.
C'est ça.
C'est pas ton ego qui
sauf souffre. Si tu publies sur pas quoi. Je sais pas si tu peux publier sur je sais pas quoi
d'ailleurs. Non, je crois pas.
Et voilà, donc pour 4,49€, ou même pour 10€. Alors c'est vrai que ça fait cher en fait. Quand t'as acheté God Slayer et qu'en plus t'achètes des héros mortels, mais des hommes déchaînés.
Moi je les ai achetés, il y a eu des packs, des fois ils font des promos, j'ai eu acheté à ce moment-là.
C'est. Voilà. Le seul petit truc, et encore, si tu fais une bêtise, c'est-à-dire, tu vois le.
Il n'y a pas d'undo.
C'est ça.
Mais c'est beaucoup de jeux sont comme ça sur ta bête.
Mais là, en fait, quand tu dis rien que tu dis je veux jouer une carte, on dit pas tu veux acheter une carte ou tu veux.
Ouais.
Il pourrait revenir un coup en arrière dans certaines conditions.
Si tu double-cliques sur une carte, il y a une action à lier, il te la propose.
Non, mais d'accord, parce que
général, tu l'as fait glisser. Ouais.
Là, tu t'appuies sur jouer toutes les cartes au lieu de les choisir. Ah bah ça va pas dans le bon sens. Bah là, t'es baisé.
Ouais, mais c'est beaucoup de jeux qui sont comme ça. C'est vrai que.
Bah, c'est juste dommage, quoi. C'est
comme après, les échecs.
Il faut faire attention, mais.
Ouais.
Ouais, carte touchée, carte jouée.
Voilà.
Mais bon. Voilà, donc si vous n'avez pas été convaincu par ma critique de Ascension, si vous cherchez à avoir une petite confirmation sur le fait que vous aimerez ce jeu ou pas, si vous avez un device iOS, Android, tant pis.
Attention, précision Android, il y a eu un Kickstarter. Pour faire une version online PC et Android.
Un jour peut-être.
Qui devrait sortir du coup, bah, c'est un Kickstarter, donc ça sortira sans doute que l'année prochaine, mais sachez que ça arrive, quoi. Il y a quelque chose.
Hein. Ouais.
Je rappelle que
PlayDeck. Hein.
Que PlayDeck, je rappelle, ouais, mais PlayDeck n'aura plus son contrat s'arrêtera fin 2014. Ça laisse du temps, hein. Ça laisse un an et demi. Et que ce sera je sais plus qui, mais un autre éditeur qui prendra la relève.
Non, mais enfin, n'attendez pas un an et demi. Moi j'ai mis un an pour le découvrir.
Voilà,
c'est vraiment un très très bon jeu de cartes. Très, très bien fait. Alors l'édition Asmodée, on vous en a parlé dans le précédent numéro. On vous parle là de la partie iOS. Enfin, juste C'est, j'avais des réserves sur le fait que les prochaines extensions vont peut-être pas me plaire. Il y en a un qui arrive là, Sigil, je sais pas quoi.
Oui, oui, ça arrive bientôt. Ouais.
Je suis vraiment pas sûr que ça me plaise, puisque ça rajoute quand même pas mal de complexité et puis surtout de hasard. Mais là, dans cette version-là, c'est super plaisant. Voilà, donc. Je vous rappelle, sur iOS uniquement, mais en version universelle, Ascension of the Gunslayer, 4,49€. Returns of the Fallen, 2,69€. Storm of Souls, 3,59€. Et le promo pack, mais il ne faut pas l'acheter, 0,89€. Ce qui vous fait un total de à peu près 12€, 11€.
En tout cas, non, mais déjà pour découvrir le jeu en retard, si vous achetez plus, si vous allez plus loin dans les achats, c'est parfait. Le seul petit regret, c'est que tu as acheté du coup forcément la version de base que tu achètes, c'est Chronicle of the Godslayer et pas.
Et tu peux pas aller directement à.
Pas Storm of Soul.
À Storm of Soul.
Mais bon.
Mais bon, comme tu dis, mais bon. Voilà, voilà. Donc, une face B. Assez light, puisqu'on vous a parlé que de deux jeux, enfin trois jeux avec ces années-là. Beaucoup, beaucoup d'ascensions, on l'attendait, ben, le voilà. J'attends votre retour. Dites-moi ce que vous en pensez de Ascension, si vous aimez le style graphique, si vous pensez que effectivement c'est du doodle et que ça aurait été mieux peint par votre grand-mère. Là, vous pouvez le dire aussi. Et puis, surtout, si vous aimez, si vous avez. Des stratégies gagnantes, si vous avez vraiment vous n'aimez pas, parce que moi ce que j'aimerais entendre, c'est pourquoi vous n'aimez pas Ascension, parce que je sais pourquoi vous allez aimer
les illustrations.
Pas. Non, mais ça c'est pas un problème. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui sera surmontable. Donc, enfin, si vous pouvez, vous pouvez laisser un petit commentaire sur notre site en disant je n'aime pas les illustrations, je ne jouerai jamais.
Au contraire, c'est mais vous avez tort à proxy jeu, elles sont géniales ces illustrations, c'est ce qui m'a fait craquer pour le jeu.
C'est ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas, un petit mot sur notre site podcast.proxy-jeu-avec-ax.fr. On vous souhaite de très belles parties, beaucoup de plaisir à découvrir à la fois Ascension et si vous le trouvez. Si vous trouvez aussi Ascension, parce que c'est maintenant en rupture, mais ça va pas tarder, ça va pas
durer.
Ça va pas durer. Et puis, à la prochaine. Donc on vous dit à bientôt et en attendant, jouez bien!
Salut les oulala. On attaque à peine la bière.
Salut.
C'est parti.
Mais tu veux pas commencer en fait?
Si tu veux. Je te laisse mettre le jingle.
Tan 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 tan. Vas-y.